Le tourisme esthétique.
De quoi on parle ?
De personnes qui vont se faire refaire les fesses, les seins dans d'autres pays, pour moins cher.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, le 1er mai, on the bridge, sur le pont, on y est, et pour Manon, Quentin et moi, c'est un numéro un peu spécial, car pour une fois, oui, on va se dire la vérité.
Oula.
Pas de blague, pas de faux-semblants, pas d'histoire inventée, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est la véritable raison de l'absence de Mathieu Noël.
Tu es mon millésime. Ma plus belle année.
Ça, c'était la version officielle, un nouvel enfant, Cyril Junior. Mais cet homme a renoncé à toute aventure sexuelle depuis 1999. Alors non, non, il n'y a pas de Cyril Junior. Pas de nouvel héritier chez les Noël. Si le producteur de cette émission est absent, c'est qu'il est parti, et pas pour RTL. Oui, il est parti en Turquie, et pas pour aller boire un raki avec Recep Erdogan. Non, Mathieu Noël est parti en Turquie pour faire la totale. Cheveux, paupières, double menton, encore les cheveux, poignée d'amour, épilation définitive XXL, encore un passage sur les cheveux, et puis les chirurgiens en profitent pour remonter les pommettes et mettre un peu de Botox sur le front. Plus que de simples médecins, ce sont les meilleurs scientifiques de la planète qui se sont penchés sur ce chantier hors norme.
Les plus grands esprits de ce monde repoussent les frontières du possible.
Il y a une différence entre utiliser une machine pour restaurer une vie et créer une chose qui n'aurait jamais dû exister.
Oui, ils ont réussi à redonner vie à une bête à bout de souffle.
Alive, it's alive.
Oui, Mathieu Noël est vivant. Oui, il est vivant. Pierre Courade est heureux, lui aussi, chante Alléluia. Comme nous tous, Mathieu Noël est remis sur pied et il compte bien profiter de cette remise à zéro dans son sex appeal.
Hello ladies, hello ladies, hello ladies, where the party at?
Ouais, where the party at? Bon, disons qu'il a encore peaufiné sa technique, mais une chose est sûre, après avoir donné ses meilleures adresses de tourisme sexuel à Bangkok dans son guide de la jeunesse éternelle, Mathieu Noël sortira bientôt un deuxième tome intitulé, celui-ci, pas une ride, cette fois pour vanter les mérites du tourisme esthétique. Quant à nous, on va voir que toutes ces histoires ne se passent pas toujours comme pour Mathieu. Zoom Zoom Zen, épisode 536, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière.
Bonjour Elsa Marie.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service Société du Parisien aujourd'hui en France. Vous avez coécrit il y a 2 ans une enquête avec votre collègue Ariane Rioux sur les ravages de la chirurgie esthétique, particulièrement chez les jeunes. Vous étiez venu nous en parler dans cette émission d'ailleurs. Ça s'appelle Génération Bistouri, c'est paru chez Jean-Claude Lattès. La chirurgie esthétique s'est aujourd'hui démocratisée, elle fait l'objet d'un vrai business. C'est un business touristique, vous allez tout nous expliquer. Le temps de vous présenter un duo qui n'a pas tout à fait le même rapport à la chirurgie esthétique. Un corps parfait, des cheveux soyeux, un sourire à l'américaine, c'est bien simple. Même le célèbre duo de Nip Tuck n'aurait rien à retoucher sur ce physique qui défie les lois de la beauté. Dans les couloirs de Radio France, on le surnomme Tancred. Mais ici, on va faire simple. Quentin Lui, bonjour.
Mais qu'est-ce qui vous arrive, Cyril? Bonjour.
Je ne sais pas, c'est la fin, c'est pour ça. Alors, Quentin,
ça va pas.
que vous ont dit les gens dans la rue, si tant est qu'ils aient pu parler sans être subjugués par votre insolente beauté, Quentin?
Vous avez raison, ils sont restés quoi? Comme bien souvent, vous avez raison. Non, plus sérieusement, sujet tabou. Difficile d'aborder le thème de la chirurgie esthétique, encore plus celle d'entrée de gamme à l'étranger. J'ai quand même pris le temps de venir discuter dans la rue parce que bon, j'adore ça.
Quant à elle, Elsa Marie, la chirurgie esthétique, ça l'amuse. Manon Mariani, c'est une de ses forces, c'est une femme sans complexe. Le bistouri, c'est pour les moches, me disait-elle en préparant cette émission.
Jamais, je dis
c'est vrai,
ça.
Vous l'avez dit. Vous l'avez
pas question d'aller me faire refaire le nez en mangeant du kebab, m'a-t-elle dit aussi.
Non,
je trouve ça un peu raciste. Mais passons. Alors Manon, à défaut d'avoir besoin d'une retouche ou l'envie d'un kebab, dites-nous, qui faut-il suivre?
Oui.
Qui faut-il suivre si on s'intéresse à notre sujet du tourisme esthétique?
Une candidate de télé-réalité qui est passée à côté de la mort après une opération de chirurgie esthétique ratée. Elle alerte sur les dangers de ce tourisme esthétique sur les réseaux.
Vers 16h30, Marie Debreuer viendra nous faire faire le plein de gais savoirs avec le Zoom Zoom Test. Et en fin d'émission, une bonne nouvelle. Lui aussi était parti en formule all-inclusive du côté d'Ankara. Il paraît que tout ne s'est pas bien passé. Un problème de couleur de cheveux, je crois.
Ah.
Il nous racontera tout dans le détail. C'est le retour de GC. Mais d'abord,
yes.
Elsa Marie, à quel besoin répond ce tourisme esthétique?
Alors, à ceux qui voudraient se métamorphoser ou faire une opération, mais qui n'ont pas les moyens, en fait. C'est le dernier verrou qui a sauté. C'est-à-dire qu'il y a encore 20 ans, la chirurgie esthétique, enfin les actes esthétiques globalement, étaient vraiment l'apanage des classes aisées. Et depuis 2005 et le début du tourisme low cost en Tunisie, eh bien, les prix ont dégringolé et du coup, même la classe moyenne peut souffrir des interventions esthétiques.
pour Cyril Lacarrière, pas question de se rendre en Turquie. La raison est simple, sa chevelure est sa plus grande fierté. c'est vrai que son cheveu soyeux et grisonnant fait envie à tous les hommes de la rédaction. Mathieu Noël, le premier. Cyril, c'est avec le cheveu peigné et galbé que vous allez nous dire le tourisme esthétique. D'où ça sort ?
Le tourisme esthétique, ça participe de l'histoire d'un phénomène qu'on a déjà abordé dans cette émission, le low cost. Au début des années 2000, on commence à voyager plus facilement et pour moins cher. L'avion se démocratise, donc comme on se balade, on découvre aussi des opportunités, dont celle-ci, des opérations de chirurgie esthétique qui peuvent coûter 2, 3, 4, voire 5 fois moins cher qu'ici chez nous. Résultat, les touristes deviennent des patients et les patients deviennent des touristes. Et c'est d'abord en Thaïlande que ça se passe. Le pays, connu pour attirer les touristes sexuels, se met aussi à attirer celles et ceux qui veulent se refaire une beauté, les touristes esthétiques. Aujourd'hui encore, si vous faites des recherches sur Internet, la Thaïlande est présentée comme un des pays leaders du secteur. Un pays où les techniques sont les plus pointues et les cliniques les plus modernes.
Et après la Thaïlande, où se développent ces opérations low cost ?
La Turquie, le Brésil, la Tunisie ou encore la Hongrie s'engouffrent dans la brèche des pays qui flairent qu'il y a un business juteux à développer. C'est là qu'apparaissent des agences de voyage spécialisées, l'avion, l'hôtel, des visites, de la farniente sur la plage et un nouveau-né, une nouvelle paire de seins ou une ceinture abdominale miraculeusement raffermie, tout est compris. Et pour moins cher que la seule opération dans notre pays d'origine. Certaines prestations vont même plus loin pour se démarquer, justement de l'image low cost. On commence à mettre en avant les cliniques haut de gamme pour l'accompagnement, par des traducteurs et même des nurses pour s'occuper des patients post-op. Et pour se faire connaître, quoi de mieux qu'Instagram ? Les réseaux sociaux sont devenus les meilleurs agents de com' de ce tourisme esthétique, pour le meilleur et pour le pire, et c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Elsa Marie, en ce moment effectivement, la destination particulièrement à la mode, c'est la Turquie. On en entend parler pour la greffe des cheveux. On sait comment la Turquie s'est spécialisée là-dedans ?
Alors, ce n'est pas du tout le pays pionnier dans la greffe de cheveux. En tout cas, ça vient d'une volonté politique. Il y a à peu près 10-15 ans, le gouvernement turc a investi massivement en fait, dans le tourisme médical, avec notamment des hôpitaux. Ils ont dépensé 5 milliards d'euros parce qu'ils ont compris que c'était une manne très rentable. Et donc, il y a le retour sur investissement a été très rapide. Et dès la fin du Covid, ils ont réouvert très vite leurs frontières. Le 1er août 2020, tous les clients internationaux ont pu revenir. Donc tous ceux qui avaient, pendant le Covid, eu envie ou eu le temps de réfléchir à des interventions, eh bien, ont pris leur billet pour venir en Turquie.
Et quel est le profil de ces touristes esthétiques ? C'est des hommes, des femmes ? Quel milieu social, à peu près ?
Alors, parce qu'on disait classe moyenne, hein, ouais. Puisque, en fait, les opérations sont quand même beaucoup, beaucoup moins chères. Par exemple, pour la greffe de cheveux, c'est entre 1500 euros et 3000 euros, alors qu'en France, c'est entre 7 et 12 000 euros, donc c'est 5 à 10 fois moins cher. C'est monsieur et madame tout le monde, donc vous avez des hommes, des femmes de classe moyenne, de classe populaire, qui vont économiser pendant très longtemps hein, pour s'offrir ces interventions. Certains vont prendre un crédit.
Carrément
des prêts. D'autres vont même vendre leur scooter ou leur voiture. C'est un peu l'opération de leur vie et ils sont aussi très fiers de pouvoir se l'offrir, malheureusement.
Je regardais les tarifs justement. 8000 euros la greffe de cheveux en France en moyenne, alors que la même opération en Turquie, voyage et séjour compris, revient à 3500 euros, donc on divise un peu plus par deux, il y a carrément des agences de voyage hein, qui sont mises pour les cheveux, avec de tels tarifs, est-ce que la sécurité de l'intervention est quand même assurée ? Parce que 3500 euros, c'est déjà une somme.
C'est le problème. Si vous voulez, pour pas caricaturer, en Turquie, vous avez à la fois des pontes de la greffe, mais leurs tarifs sont à peu près les mêmes qu'en Europe. Et vous avez ensuite des usines. Ce sont des cliniques où en fait on opère à la chaîne avec des prix imbattables. Et évidemment, comme partout, il faut se méfier quand les prix sont aussi bas, parce que vous avez souvent des techniciens qui sont embauchés, qui font le travail en fait des médecins. Parce que c'est très long et très fastidieux, hein. La greffe c'est à peu près 8 heures, donc du coup il y a des techniciens qui ont une main d'œuvre qui est très peu chère et qui va en fait faire ça à la chaîne très vite.
Ils n'ont pas de diplôme.
Alors voilà, donc eux, en fait, ce ne sont pas des infirmiers forcément. Ouais. Ils font ça un peu comme un petit boulot, quoi. Ils vont réimplanter. Donc on sélectionne, en fait, à l'arrière, vous savez, dans la zone donneuse, les greffons qu'on va réimplanter un peu. On donne un peu l'image des carottes qu'on déterre et qu'on replante.
C'est une jolie image.
Voilà, c'est une image, en tout cas. Et si vous voulez, donc eux,
et
ils vont
ils
aller très vite.
Comment ils apprennent sur le tas
En fait, si vous voulez, c'est comme un travail d'usine, quoi. On enlève et on replante. Donc c'est très long, très fastidieux. c'est pas très compliqué, mais sauf qu'en fait, ils vont pas respecter l'effet naturel, ils vont aller très vite et ils vont prélever trop de greffons dans la zone donneuse, ce qui fait que parfois ça endommage la peau, que le sang circule moins bien dans les tissus du cuir chevelu et ça peut aboutir à des nécroses.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lee, Cyril Lacarrière.
Zoom cet après-midi sur le tourisme esthétique avec la journaliste du Parisien et aujourd'hui en France, Elsa Marie, autrice de Génération Bistouri, paru chez Lattès. Elsa, on parlait de ces pays qui se spécialisent dans le tourisme esthétique, généralement avec un package qu'on comprend, le vol, l'hôtel, chauffeur, opération évidemment et le check-up. Comment ça se passe concrètement ?
Alors, vous rentrez en contact avec une clinique via les réseaux sociaux et en fait, elle s'occupe de tout. C'est un peu le principe et c'est assez séduisant parce que vous n'allez pas dans un pays seulement pour vous faire opérer. Vous allez aussi bronzer, profiter du Grand Bazar d'Istanbul ou du Club Med en Tunisie. Donc, en fait, tout est organisé. Ça donne aussi un peu l'impression que vous êtes VIP, donc ce qui est aussi très valorisant pour la classe moyenne ou la classe populaire qui ne voyage pas toujours. On vient vous chercher avec un voiturier à l'aéroport. Pas besoin de parler la langue. On vous emmène à l'hôtel. Le lendemain, vous faites opérer. Le soir, on vous ramène à l'hôtel. Et le lendemain, on vous ramène à l'aéroport.
Et le tourisme se fait quand alors Parce que j'imagine qu'on va pas aller dans...
Oui, vous avez raison.
Hein, on est d'accord.
Vous avez raison. Alors, parfois, on prend une journée de plus pour...
Mais avant la...
Basket... non, mais par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Istanbul, c'est assez frappant. Il y a énormément de greffés qui se baladent dans les rues du Grand Bazar. Donc, c'est plein de... On voit plein de crânes, comme ça, ensanglantés, avec des...
On peut marcher
enfin... Ah oui, on peut prendre...
Les cheveux, ça va.
Bah non, on pourrait être convalescent, quoi. On pourrait être allongé.
Ouais, non, ça va. Ça, cette opération... c'est la microchirurgie d'ailleurs, on ne considère pas forcément que c'est une opération. Donc on les rencontre un peu partout, dans les hôtels, aéroports, si bien que vous connaissez un petit peu l'anecdote peut-être de Turkish Airlines, qui a été baptisé Airline HR. Parce que même moi dans mon vol retour, que j'y suis allée deux fois pour faire le sujet, j'en rencontrais à peu près 25, donc ils ont tous le crâne ensanglanté avec le bandeau des cliniques. Où vous bronzez, par exemple, si vous avez fait une rhinoplastie, une opération du nez en Tunisie, vous avez un bandage et puis vous profitez du soleil. Alors par contre, ce que je voudrais dire, parce que ça m'a énormément choquée, j'avais travaillé aussi sur les cliniques dentaires en Turquie, et il y avait une clinique qui m'avait dit, nous on n'offre pas systématiquement l'hébergement, c'est-à-dire que c'est pas forcément all inclusive. Je dis, quelles conditions ? La condition, c'est de faire au moins 20 couronnes. Donc vous imaginez à quel point c'est du massacre parce qu'on a 32 dents
et que 20 couronnes,
ça en fait. Donc on marchande ses dents, c'est plus la médecine, c'est du commerce.
Mais on parle des réseaux sociaux, mais du coup on les trouve où ? On les trouve sur Instagram, sur TikTok, à peu près partout parce que normalement c'est interdit aujourd'hui de faire de la pub pour la chirurgie esthétique.
Oui, c'est interdit. Alors après, donc, ce sont des cliniques turques ou étrangères qui font la publicité, donc elles ne sont pas soumises au même régime que la France. Mais elles se trouvent tout simplement là où sont les jeunes, sur TikTok, sur Snap, sur Instagram. Et donc, il y a plein de... C'est quand vous arrivez sur leur compte, soit par le bouche à oreille, soit parce que vous aimez un influenceur,
l'algorithme,
ou un influenceur qui, par exemple, va faire la publicité pour une clinique. Donc, vous dites, si lui, il y va, moi, j'y vais forcément, et en toute sécurité. Et vous vous retrouvez donc sur des sites ou des comptes Instagram, sur les réseaux sociaux, où ils affichent des super belles photos d'avant-après, des TikTokers qui vont dire, allez, chez lui, il est génial. Des clients, c'est presque des clients, mais on va dire des patients, qui sont très contents. Forcément, ils viennent juste de se faire opérer, donc on leur tend le micro, ils font des petites stories. Et il y a en gros partout le numéro de la clinique. Vous n'avez plus qu'à écrire sur WhatsApp.
Des codes promo aussi, je suppose.
Des codes promo aussi,
Et j'imagine qu'ils ont pignon sur rue pour les recherches sur Google, par exemple.
En fait, il y a énormément de cliniques. Donc, si vous voulez, il y a une concurrence.
On arrive à chiffrer le nombre d'établissements.
En tout cas, je sais qu'en Turquie, il y a 2000 cliniques à peu près.
Rien qu'en Turquie ?
Ouais, rien qu'en Turquie. Et on peut dire que en Turquie, il y a 1,5 million de touristes étrangers qui viennent se faire opérer chaque année, dont 50 000 Français à peu près.
Comment ça se passe pour le règlement ? Je vais en parler parce qu'on avait fait une émission sur la calvitie. D'ailleurs, un très bon podcast à réécouter de Zoom Zoom Zen. Parce qu'on a fait une émission sur la calvitie. Et je me souviens d'un témoignage où un homme expliquait qu'il s'était scotché les billets de banque sur le corps pour prendre l'avion parce qu'il avait peur de se faire avoir par une arnaque. On ne règle pas avant, on règle sur place, en cash ?
Oui, on règle sur cash. La plupart du temps, je me souviens qu'effectivement, les jeunes m'avaient raconté ça. Je me souviens d'un garçon qui était étudiant, qui avait économisé 150 € pendant 18 mois pour se payer sa greffe de cheveux à 1500, 2000 euros, quelque chose comme ça. Et effectivement, on demande le paiement comptant sur place.
Pourquoi on doit payer en cash ? Est-ce que justement ça ne doit pas être le red flag en disant si on demande de payer en cash, c'est que ce n'est pas clair ?
Alors ce n'est pas le seul red flag,
non, il y en a plein.
Mais effectivement, effectivement, il faut se dire qu'à partir de là, c'est quand même un peu bizarre, ça ne laisse pas de traces en plus. Puis comment on fait quand on a un problème ? Voilà, il n'y a pas de traces de paiement, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. C'est aussi le problème aussi dans ces pays-là, c'est qu'il faut se poser deux questions avant de prévoir une intervention, c'est s'il y a un problème, à qui je m'adresse, et en cas de besoin, qui m'indemnise. La réponse, c'est personne.
À chaque fois, c'est personne.
Personne.
Oui, c'est potentiellement un rapatriement en France si ça se passe mal, j'imagine, quand même.
Un rapatriement peut-être en France, mais en général, les complications, elles arrivent. Oui. Vous restez très peu de temps dans le pays, et quand vous rentrez en France, y a plein de gens qui ont des complications, qui ensuite reprennent les réseaux sociaux, écrivent au même numéro sur WhatsApp, puis au bout d'un moment, silence radio.
On parlait des influenceurs. Vous dites que certains influenceurs peuvent se faire payer pour subir une intervention esthétique juste pour pouvoir faire de la pub pour la clinique en question. Non mais là, c'est totalement un jeu dangereux, en fait.
Oui, alors ils ont ils ont envie de se faire une intervention, et plutôt que de dépenser de l'argent, ils font un partenariat. Oui, c'est dangereux. Alors ce genre de partenariat est apparu dans les années 2015 avec, notamment les influenceurs de télé-réalité,
les Marseillais
qui étaient, qui sont des personnes qui sont suivies par des millions de personnes, qui ont une communauté de fans, de très jeunes, très influençables du coup, et eux ils ont commencé à développer ces partenariats-là et à poser aux côtés de leurs chirurgiens, dans des cabinets esthétiques, comme si c'était un ami, comme si c'était un jeu. Évidemment, ça a largement contribué à démocratiser les actes esthétiques.
Lui, il ne pratique pas le tourisme esthétique à titre personnel, mais la société, lui, Jeunesse Éternelle, fait évidemment partie des leaders du secteur. Dans son carnet d'adresses, les plus grandes stars du showbiz français, La Rousseau, Phil Winter, Laurent Boyer, Lame, Patrick Hernandez.
Ah Patrick, bon client. Bon. Il a contacté pour un blanchiment, mais pas des dents.
C'est même lui qui a vendu la formule VIP à Mathieu Noël.
Oui.
Quentin, micro-trotteur, c'est à vous que je m'adresse.
Oui.
Que pensent les passants de ce phénomène du tourisme esthétique ?
Je longe la Seine. Ce printemps-été quand même fait du bien. Les gens marchent en regardant le reflet des rayons dans l'eau au rythme des bateaux-mouches. C'est notre modèle de tourisme à nous, finalement, les bateaux-mouches. Quand je tombe sur cette femme, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Gaëlle.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Animatrice de radio.
Où ça ?
À FIP.
On s'est rencontrés par hasard.
Oui, exactement. Oui.
On fait une émission pour Zoom Zoom Zen. Mm-hmm.
Le tourisme esthétique.
De quoi on parle ?
De personnes qui vont se faire refaire les fesses, les seins dans d'autres pays, pour moins cher.
Oui, la Turquie, on vient d'en parler pour la greffe de cheveux, l'augmentation mammaire au Mexique, la chirurgie dentaire en Hongrie. On regarde une grille de prix. Par quoi elle pourrait être tentée, elle ?
Ouais, peut-être le blanchiment de dents, mais encore quand je vois certaines stars qui ont les dents tellement blanches qu'on se demande ce qui se passe.
Blanchiment dentaire en France, c'est entre 500 et 1000 euros. Et à l'étranger, c'est entre 100 et 300. Je vous prends un billet ?
Non, absolument pas. C'est sûr que c'est pas facile de vieillir pour une femme. J'ai 55 ans. On perd une forme de pouvoir en perdant la jeunesse et une forme de beauté. Moi, quand je suis tentée de me dire « Oh, je ferais bien quelque chose », je pense à Anouk Aimée, puis je change d'avis.
Anouk Aimée, l'actrice qui accepte de vieillir, est-elle une source d'inspiration de notre époque ? Plus loin, je tape la discute avec Marco, qui décharge les fleurs devant un magasin.
Le tourisme esthétique, ça veut dire quoi ça, esthétique ? Tourisme esthétique. Bah oui, c'est moins cher. Avec 1500 balles, 2000 euros, tu mets tout le dents. Je ne sais pas après s'il va tomber ou pas de quelques années. Ça, je ne sais pas, tu vois.
Alors, c'est vrai que si tes nouvelles dents tombent 2 ans après l'opération, est-ce qu'il y a un remboursement ? Un SAV, on posera la question. Laurence marche en sandales, lunettes de soleil, sac de course dans la main. Elle est pressée, mais j'insiste pour qu'elle réagisse au thème de Zoom Zoom Zen, le tourisme esthétique.
Ah, mais j'ai lu une histoire épouvantable sur un jeune homme qui a fini par se suicider parce qu'il s'était fait une greffe de cheveux qu'il n'avait pas prise, qu'il avait des démangeaisons épouvantables et qu'il était parti, je ne sais plus où c'était, parce qu'il n'avait pas les moyens de se faire opérer en France. Je trouve ça affreux. Il y avait son père qui témoignait. Je trouve ça... Oh, c'est horrible.
Il était jeune ?
Ouais, genre 25 ans.
Pour elle, il y a un piège avec ses prix attractifs à l'étranger.
Je pense que quand on met un pied là-dedans, c'est épouvantable. Je me mets à la place des gens qui font ça. Je me dis, si tu commences à t'enlever de rides, après tu vois plus que toutes les autres. Après, il y a le cou qui est plutôt plissé alors que le reste est tout lisse. Et les mains, c'est pareil. Et après, on ressemble aux frères Bogdanov qui, soi-disant, n'ont jamais rien fait. Voilà, bon, je peux m'arrêter là ?
Oui, bah, je vous en prie, Laurence. Filez. Dina, elle, a 33 ans. Je lui demande si ce que je vais lui faire lire est un phénomène de notre époque.
Le tourisme esthétique. Je ne pense pas que ce soit lié à l'époque. Dans différentes civilisations antérieures, on a pu modifier son corps.
Pensez à quoi ?
Bah, notamment au tatouage, à la scarification, ce genre de choses pour se rendre soit plus beau, entre guillemets, aux yeux des autres, ou avoir une identité de groupe, de tribu, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à force de se regarder soi-même dans les appels en vidéo, etc., on a davantage de conscience de son physique.
Ouais, on a poussé le curseur Narcisse, là.
Oui, et avec les réseaux sociaux aussi, le regard de l'autre est beaucoup plus important qu'avant.
Elle-même me confie qu'elle voit la tentation de la chirurgie se rapprocher.
Quand je vois les copines, elles sont toutes en train de faire des injections Botox et tout, les pas de doigts, etc. Bon, moi, je sais pas, j'hésite un peu.
C'est pas un nom.
C'est pas un nom.
Et elle a 33 ans. Ma dernière rencontre, c'est cette dame qui sort du restaurant. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quel est votre prénom ?
Ginette.
Ginette, vous avez déjeuné avec quelqu'un, vous ?
Avec ma petite fille.
Elle avait l'air contente. Hein.
Oui, elle est très gentille.
Quel âge vous avez ?
Moi, je suis vieille, j'ai 85 ans.
Alors, quel regard elle pose, Ginette, sur le...
Le tourisme esthétique ? Mais je trouve que c'est risqué d'aller à l'étranger parce que toute opération est un risque.
C'est pas faux, elle scrute mon micro France Inter et me confie...
Mais je vais vous dire, moi, à 23 ans, je me suis fait refaire le nez. Et c'était une horreur. À l'époque, on vous faisait un shot de cocaïne et ensuite on vous faisait des piqûres dans le visage. C'était l'horreur. Et j'ai regretté, mais c'était il y a 60 ans.
Ce sera notre petit secret.
Voilà. J'ai plus rien à vous dire.
Bonne journée.
Vous aussi, monsieur. Au revoir.
Notre apparence, même si elle semble prendre une place encore plus essentielle de nos jours, a finalement toujours compté. Ginette s'éloigne, le pas tranquille, elle qui m'a tout dit. Et moi, je reste là, à contempler les bateaux mouches, à penser à ces corps qui voyagent pour être retouchés, améliorés, refaits. On ne va plus seulement chercher le soleil ou le dépaysement. Aujourd'hui, à l'étranger, on va bel et bien chercher une nouvelle version de soi.
Merci Quentin. On continue à parler de l'essor du tourisme esthétique avec notre invitée, la journaliste Elsa Marie. Je vais revenir sur ce que vient de nous dire Ginette. Elle a fait une opération il y a 60 ans. Alors, à l'époque, ok, on voyageait pas, mais on faisait déjà des opérations extrêmement douloureuses, risquées. Alors, c'était l'injection de cocaïne, là, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Quentin doit connaître un peu mieux. Mais en tout cas, ce besoin-là, il existe depuis toujours, au fond. Cette envie, même.
Oui, alors il y a toujours eu, si vous voulez, une recherche, une quête de beauté et aussi des améliorations technologiques qui ont fait que les opérations sont devenues plus faciles, moins douloureuses. Ça, c'est évident. Et puis aussi le progrès, le miroir, la photographie, l'électricité, évidemment. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas en train de parler juste de chirurgie esthétique, on est en train de parler de dérive et d'industrialisation avec un business, une fabrique de la beauté qui a été créée pour les jeunes et... sur les réseaux sociaux.
Oui, parce qu'il y a des dérives et il y a aussi des drames. On l'a entendu dans le micro-trottoir, mais un jeune homme de 24 ans, Mathieu, s'est suicidé l'an dernier après une greffe de barbe ratée. Est-ce que vous avez suivi cette affaire ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, tout à fait. J'ai fait des interviews de son père, Jacques, et je suis allée ensuite faire l'enquête à Istanbul. Donc Mathieu, il avait 24 ans, et il voulait se faire une greffe de barbe parce qu'il n'avait pas une barbe très garnie. Et il est allé sur recommandation d'un copain. Là, pareil, attention, c'est pas parce que ça s'est bien passé pour quelqu'un que ça se passera bien pour vous. Donc il est allé, c'était à peu près 2000 euros, je crois. Donc voilà, encore une usine, quoi. Le résultat était catastrophique. Donc elle était très, très artificielle, la ligne de démarcation était irrégulière, les poils mal implantés. Mais en fait, Mathieu, il a très mal vécu et en fait, il s'est pas reconnu dans le miroir. Il n'a pas réussi à dépasser ce cap, à se dire « c'est moi ». Et il a commencé à mettre des draps sur les miroirs chez lui parce qu'il ne pouvait plus se regarder, il ne pouvait plus supporter son regard sur lui. Et ses parents me disent qu'ils ont essayé de le prendre en charge. C'était quand même un garçon équilibré qui allait bien, très entouré. Mais ça n'a pas suffi et il est allé voir un médecin qui a accepté en fait de lui faire une reprise de barbe. Mais c'était trop tard et ensuite il s'est rendu compte qu'il avait été berné et ça c'était quelqu'un de très droit, très honnête Mathieu, donc il n'a pas supporté. En fait il n'a pas été opéré par un médecin mais par un technicien et même quelqu'un qui travaillait dans la publicité et ça l'a dévasté. Et donc ensuite je suis allée moi en Turquie pour faire l'enquête, je me suis aperçue que la clinique était une agence de tourisme et que l'hôpital dans lequel il avait été opéré était fermé à cause de corruption, quoi, à cause d'un scandale de corruption. C'était une escroquerie du début à la fin.
Dina, qu'on a entendu, nous dit que ses copines parlent beaucoup du botox sur le front, les pas de doigts, elles ont la trentaine. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est déjà mettre un pied dedans ?
Ah mais évidemment, et c'est le piège parfait. Je veux dire, 33 ans, c'est même 25. Si vous voulez, avant, on faisait la chirurgie esthétique, quand on était vieux, entre guillemets, pour essayer de paraître un peu plus jeune. Aujourd'hui, on est jeune et on veut rester jeune. C'est pour ça qu'on fait la chirurgie esthétique. On a tellement peur, on anticipe la vieillesse. Le botox préventif, c'est quand même un nom marketing génial, non? Botox préventif. Vous n'avez pas de rides, mais attention, elles pourraient apparaître. Donc il vaut mieux mettre le muscle au repos avant que ça se produise.
Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière sur France Inter.
Est-ce que c'est une bonne idée d'aller se faire greffer des cheveux dans un autre pays? Le crâne de Mathieu Noël nous donnera bientôt la réponse. Mais en attendant, accueillons Marie de Breuer. Bonjour Marie.
Bonjour.
C'est à vous pour le Zoom Zoom Test.
Bon, bah le tourisme esthétique, je suis pas contre. Mais j'avoue que si je vais en Turquie pour la magie d'un coucher de soleil sur le Bosphore, ça va peut-être me tendre si dans l'avion du retour, je dois cohabiter avec la team crâne fraise Haribo. Un quiz dédié au monde merveilleux de la chirurgie esthétique que je dédie à Mathieu et ses 83 interventions. Pour ressembler à Saruman. Et on commence ce quiz en Angleterre, où Annette Edwards, à l'approche de la soixantaine, s'est offert un petit starter pack mammoplastie botox lifting pour ressembler à A. Cruella, la méchante des 101 Dalmatiens, B. Fiona, la gentille princesse de Shrek, C. Jessica, la pin-up de Qui veut la peau de Roger Rabbit.
B.
Bravo Manon, c'est la réponse C.
Personne n'a voulu faire Fiona.
Et non, surprise. Bizarre, bah, un petit verte. Inverse. Pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, Jessica est une sorte de Kimka rousse avec des gants et un porte-cigarette. Et pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, Kimka c'est... Mais non, je déconne, même Cyril sait qui c'est. Next question.
Il sait bien.
Direction l'Inde en 600 avant Jésus-Christ. Shushruta, un des fondateurs de la médecine ayurvédique, donc une médecine douce, aimait aussi la chirurgie et tâter du bistouri. Il était même spécialisé dans la rhinoplastie pour une raison bien particulière. A. Il faisait du SAV suite aux amputations de nez qui était une punition très tendance à l'époque. B. Il remodelait les nez pour les faire ressembler à celui de Vishnu. C. Il aimait la moula.
A. B. Je suis devant.
Non. Réponse A. Bravo Manon. Mais oui. Shushruta est le père de la rhinoplastie. À l'époque en Inde, quand tu faisais une connerie, on te coupait le pif, voilà. Et il te prélevait des petits bouts de peau sur le front pour te faire un petit bout de nez. Et alors vous me direz, mais du coup, on fait comment pour le front? Eh bien, je vous répondrai, on n'a pas le temps. Passons à la question feel good du quiz. Au cours de quelle guerre la chirurgie a-t-elle connu un véritable tournant? A. La guerre de 100 ans avec les amputations. B. La première guerre mondiale avec les gueules cassées. C. La guerre du Vietnam avec les brûlés. Bah, je l'ai même pas eu le temps de le dire.
Mais ça, normalement, c'est pas autorisé.
Mais est-ce qu'elle y va?
Et bah,
je la vois partir.
Et bah, point personne.
Point pour Cyril.
Allez, point pour Cyril, justice.
La beauté du geste.
Le premier de ces deux semaines.
Pour pas être Fanny. Pour pas être Fanny.
On lui accorde, on lui offre. 14-18, grosse période pour gérer les fractures de mâchoire, les éclats d'obus, les pertes de tissus, de peau, de muscles et des petits os. Quelqu'un reprendra du flan pour le goûter? Et non. Ça a quand même donné l'appétit, malgré les trucs dégueux que je viens de dire.
Il a toujours faim.
Et c'est à ce moment qu'une docteure française s'est particulièrement révélée, voilà, après avoir rattrapé le lifting un peu foiré de Sarah Bernard, qui avait expérimenté le tourisme esthétique aux États-Unis, une femme va se dédier à la reconstruction des gueules cassées. S'agit-il de A. Geneviève Mariani, B. Rosalie Lacarrière, C. Suzanne Noël?
C.
Bah oui, bravo. Mamie Suze réparait les caboches, dis donc, voilà. Et pas que, puisque pendant l'entre-deux-guerres, elle va inventer A. le dégraissage par aspiration, B. les implants silicone, C. le BBL.
B.
A. Les implants.
Réponse A. Bravo Quentin. Bravo, bravo. Et surtout, ça c'est un petit truc sympa à caser pendant un apéro terrasse. Suzanne Noël a soutenu une thèse de doctorat sur l'extension réflexe du gros orteil d'origine périphérique. Voilà une petite info cadeau.
Et qu'est-ce que c'est?
Bravo Suzanne, bravo les orteils et bravo Quentin.
Cyril n'a pas gagné un Zoom Zoom Test.
Non. Donc, est-ce qu'il a seulement joué?
Ah oui, c'est clair.
Je joue.
Mais il est toujours
joue
un peu hors compétition.
Je joue l'autre, voilà. Je suis un peu dans mon petit monde, hein, voilà. Zoom sur le tourisme esthétique cet après-midi dans Zoom Zoom Zen avec la journaliste du Parisien et aujourd'hui en France, Elsa Marie. Elsa, on a parlé du rôle des réseaux sociaux hein, dans cette publicité faite aux cliniques de chirurgie esthétique. On en est où de la réglementation aujourd'hui en France ?
Alors, depuis juin 2023, une loi interdit strictement la publicité pour la chirurgie esthétique. Donc, avant, on pouvait dire, certains influenceurs pouvaient dire oui, mais il y a un flou, ce qui n'était pas vraiment le cas. Mais bon, depuis juin 2023, une loi vient encadrer le métier d'influenceur et dire en fait, la fête est finie, maintenant, plus de publicité sur les réseaux sociaux, c'est interdit, vous risquez 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.
Mais ça, c'est pas valable pour tout le monde. C'est valable pour les influenceurs français ou ce qu'on voit en France. Parce que vous nous disiez tout à l'heure qu'on pouvait finalement tomber sur des publicités de cliniques à travers des influenceurs qui sont sur TikTok, sur Instagram, etc.
Alors, si vous êtes un influenceur français mais que vous êtes à Dubaï, la loi s'applique également, peu importe. En fait. Hein. Mais là, je parlais plus tout à l'heure des cliniques turques qui, elles, n'étaient pas soumises à ce genre de réglementation.
Mais dans un article du mois de janvier, vous écrivez qu'après une longue période de retenue, de plus en plus d'influenceurs décomplexés se remettent à poster leur visage botoxé, leurs fesses bombées, leurs dents toujours plus blanches sur leur compte et qui sont suivis évidemment par des millions d'abonnés. Que s'est-il passé ? Pourquoi ce retour à la publicité ?
Oh bah, tout simplement parce qu'ils se sont fait discrets après la loi sur les influenceurs qui interdit la publicité. Et puis, le naturel est revenu au galop, on va dire. Ils se sont remis à faire des partenariats, ils se sont remis à mentionner des chirurgiens, alors que c'est strictement interdit. Ça montre qu'il y a...
Mais du coup, ils enfreignent la loi,
complètement. Mais oui, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire « on ne savait pas ». Il y a un fort sentiment d'impunité et ils se remettent à faire de la publicité pour avoir des ristournes, voilà. Et si vous voulez, on parle pas de n'importe quel influenceur, on parle
notamment
Nabila, voilà, Nabila qui est suivie par à peu près 10 millions de personnes sur Instagram. Il faut savoir que Emmanuel Macron est suivi par 4 millions. Vous voyez à quel point elle a une audience dingue. Nabila aussi, vous savez, Magali Berda, l'ex-papesse des influenceurs, qui en plus a été auditionnée au Sénat dans le cadre de cette loi sur les dérives des influenceurs, et qui après fait de la publicité pour une fausse médecin, pour des injections. Donc, je veux dire, il n'y a aucune limite, en fait.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, au fond, la justice ne fait pas son travail, que personne ne regarde, finalement, une fois qu'on a fait un texte
Qu'ils préfèrent payer des amendes parce qu'ils sont blindés. Il y a peut-être aussi ce cas-là.
Moi, je pense que... Ils ont, je sais pas comment l'expliquer en fait. Je pense qu'il y a quand même eu énormément de dérives. Eux-mêmes ont dit des filles comme Maëva Guénam, on a fait trop de chirurgie esthétique et puis après elles refont la publicité. Donc je sais pas comment l'interpréter. En tout cas, il y a pas vraiment beaucoup d'éthique. Oui, l'argent, l'éthique, voilà, il y a pas d'éthique. Le problème c'est qu'il y a pas assez de, il y a quand même des sanctions, mais elles sont beaucoup trop légères. Donc d'où ce sentiment d'impunité, c'est tout.
Dans vos enquêtes, vous avez reçu des témoignages de personnes qui vous ont raconté des expériences horrible. Est-ce qu'on peut en avoir quelques-unes, une ou deux ? Que vous disent-elles ?
Alors celles-là, vous ne les verrez pas sur les réseaux sociaux, hein, parce que ce n'est pas très vendeur, on va dire. Il y a par exemple Margot, qui avait 24 ans à l'époque, il y a quelques années. Donc elle est allée en Tunisie. Vous savez, c'est là où on fait les seins, des prothèses mammaires, mais également aussi des liposuctions. Et le problème, c'est qu'ils font beaucoup d'opérations en même temps, ce qui est très dangereux d'ailleurs. Et donc elle venait d'avoir 2 enfants, donc elle a fait à la fois un lifting des seins et prothèse mammaire, plus une injection de graisse dans les fesses, et en même temps ce qu'on appelle, c'est une opération qui vise à enlever la graisse, la peau en fait, vous voyez, du ventre. Donc elle a fait 4 opérations, c'est extrêmement dangereux. Et quand elle s'est réveillée, elle a cru mourir. 4 jours après, ça n'a pas empêché l'agence de tourisme de la renvoyer dans un avion, hein, alors que normalement en France, il faut savoir, c'est 15 jours 3 semaines avant de reprendre l'avion après une opération. En a eu 4, elle a failli mourir, elle avait des opérations partout, des cicatrices partout, le ventre qui s'est ouvert en deux, les mamelons qui était tellement haut qu'il dépassait du soutien-gorge. Ensuite, il y a eu, je peux vous parler d'Irina, qui m'a énormément touchée, qui, elle, a fait des injections dans les sillons nasogéniens, vous savez, ces espèces de parenthèses qui partent du nez jusqu'à la commissure des lèvres, pour enlever une petite ride. Elle avait une trentaine d'années. La piqueuse s'est trompée, c'était une fausse médecin, elle l'a injectée dans l'artère. Elle a fait 2 greffes, moi je l'ai vue, elle a 2 enfants, elle ne sort plus de chez elle, elle n'arrive plus à s'occuper de ses enfants 3 ans après. C'est des gens qui ne parlent pas, c'est des gens qui ont honte, et du coup, on n'entend pas ce discours de risque.
Voilà. Parfois, ça arrive quand même aux influenceurs eux-mêmes. Qu'est-il arrivé, par exemple, à Gabriel Ayuso, un candidat de la Villa des Cœurs Brisés. Je crois qu'il est parti dans un cabinet dentaire d'Istanbul.
C'est ça.
Mais donc, ça s'est mal passé.
Oui, vous savez, ces fameuses facettes, c'est une tendance très dangereuse d'ailleurs.
Sur les dents,
ne faites pas ça. Ouais, ne faites pas ça, c'est très très dangereux. Les médecins disent que les gens qui font ça perdront leurs dents à 50 ans. Vous savez, ça consiste à limer les dents en forme de requin, comme ça. Moi, j'ai assisté à une intervention, ça dure 2 heures, c'est hyper impressionnant. Et ensuite, ils mettent des espèces de chaussons, en fait, c'est des couronnes, donc en fait, des fausses dents sur des dents saines. Et donc, c'est ce qu'il a fait. J'ai vu cette publicité passer derrière, et puis le lendemain, il a reposté un message en disant, bon, bah voilà, je viens de perdre 3 dents dans l'avion, et il a perdu 3 dents de plus le soir même. Donc, ne faites pas ça. Bon, c'est un peu trop tard, hein. Il aurait fallu ne pas le dire, quoi.
Est-ce que le tourisme esthétique, c'est toujours une mauvaise idée? Ou est-ce qu'il y a des endroits où on sait qu'on peut aller et où ça se passe bien, c'est encadré? Comment savoir, en fait, si on est en contact avec un établissement sérieux?
Alors, il y a des très bons médecins. Il ne faudrait surtout pas croire qu'en Tunisie, en Turquie, il n'y a que des charlatans ou des médecins expérimentés. Ce n'est pas vrai. Le seul problème, comme on disait, c'est ensuite s'il y a un problème vers qui on se tourne. C'est plus ça, en fait. Et il n'y a pas de suivi post-opératoire. Donc, c'est en fait l'après qui pose problème. Parce que quand vous avez un souci et que vous revenez en France, ben, il faut trouver un médecin qui accepte de vous reprendre, de réintervenir. Il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en France, c'est celui qui touche qui est responsable. C'est le dernier qui a touché qui est responsable. Donc, il y a plein de médecins, quand ils vous voient arriver, ils disent « Oh là là, mais moi, je préfère ne pas intervenir. » Donc, vous vous retrouvez souvent seul à devoir aussi repayer une intervention. Alors, vous avez mis toutes vos économies dans la précédente. Donc, vous êtes piégés. Les influenceurs, eux, par exemple, Gabriel, avec ses 3 dents, bah, c'est pas grave, il va aller chez un médecin, il va payer. Mais les autres, c'est ça la question.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Un jour, il y a peu de temps, je vois arriver au bureau Manon Mariani, l'œil tout gonflé. Tout de suite, je pense au pire, un aller-retour caché, une piqûre qui aurait mal tourné. Non, c'est juste une conjonctivite.
Bah oui. Bon,
depuis, je lui conseille l'arme-écran. L'arme-écran, un condensé d'humidité qui lutte face aux lumières des écrans. La tête penchée, le bec verseur incliné, la paupière tirée. Essayez l'arme-écran. L'arme-écran avec des vrais bouts de lubrifiant dedans.
Bref. Ça va pas, Quentin.
C'est pour lubrifier les yeux.
Oui, j'ai bien compris.
Manon Mariani, vous nous avez trouvé la personne à suivre autour du tourisme esthétique.
Oui, je vous présente Luna Sky. Elle a 30 ans, elle est française et elle s'est fait connaître en 2020 dans la télé-réalité W9 Les Princes et Princesses de l'Amour. Elle a ensuite été candidate des Marseillais et elle commençait petit à petit à se faire un nom sur les réseaux sociaux grâce à ses émissions. Sauf qu'en 2021, sa vie va basculer. Luna Sky est complexée par ses fesses et veut faire de la chirurgie pour les grossir, comme beaucoup de candidates de télé-réalité. Sauf qu'elle ne veut pas faire de Brazilian Butt Lift, le fameux BBL comme les autres, et elle décide de se faire des injections d'acide hyaluronique dans le fessier. Une opération censée être moins abrasive et douloureuse que le BBL classique. Elle fait donc appel au chirurgien star des candidats de télé-réalité, Benjamin Azoulay. La jeune femme est en confiance, 7000 euros qu'elle pense bien dépenser. Mais un mois plus tard, Luna Sky commence à avoir des courbatures dans les fesses. Et ça devient de pire en pire. Elle est obligée de se faire hospitaliser à Los Angeles où elle habite. Pendant 3 mois, elle enchaîne les complications à cause de ses injections. Elle fait une septicémie et elle est atteinte d'un staphylocoque. La cause, une bactérie qui s'est logée directement dans le produit. Un cas très rare, selon son chirurgien, qui a dit à Libération avoir injecté plus de 350 patientes et que seulement 3 ont été victimes. Il dit ne pas se dédouaner de sa responsabilité, mais que ça se passe bien dans la majorité des cas. Sauf que Luna Sky, elle a fait une découverte assez perturbante. Elle a reçu plus de 40 doses dans chaque fesse, alors que ce sont normalement une quinzaine de doses maximum. Résultat, pendant ses 3 mois d'enfer à Los Angeles, on lui donne des traitements à base d'opioïdes, elle devient accro et elle raconte son calvaire sur les réseaux.
J'ai dû revenir me faire hospitaliser d'urgence, c'est un peu compliqué, les médecins ici c'est privé, donc du coup ils me disent qu'ils veulent plus prendre la responsabilité, qu'ils savent plus quoi faire.
Heureusement, elle finit par être rapatriée en France où elle est prise en charge par le chef de service de chirurgie plastique à l'hôpital Tenon à Paris. Elle n'a pas été la seule victime, une autre candidate de télé-réalité, Émilie Amar, a vécu la même chose avec le même chirurgien. Les deux ont pris la parole dans les médias pour parler de leurs expériences et prévenir surtout la jeune génération qui les suit de faire très attention et de ne pas croire tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux.
Merci Manon, vous parliez tout à l'heure, Elsa, du silence des victimes de la chirurgie esthétique. Là, Luna Sky, elle prend la parole, elle témoigne, elle montre, elle nous emmène avec elle dans son histoire. C'est bien, il faut le faire.
Oui, c'est très bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes avec justement tout ce qui est injection dans les fesses. Je me souviens à l'époque, j'avais suivi Luna Sky qui, selon elle aussi, a été injectée dans une villa à Dubaï par le docteur Azoulay, ce qui, en termes d'asepsie, n'est pas terrible. Et du coup, elle... c'était très bien qu'elle prenne la parole, mais vous voyez, à l'époque, il y avait quand même des problèmes avec des injections dans les fesses. J'en avais parlé à des médecins, je leur ai dit, mais il n'y a pas un souci quand même. Il y avait, en dehors de Luna, plein d'autres cas, des personnes qui n'étaient pas connues, qui m'en parlaient. Ils nous disaient non, 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 pas du tout. Et puis en fait, là, 2-3 ans après, il y en a, les médecins
ils
me
se réveillent,
disent,
quoi.
Bah, les médecins disent ah, effectivement. Et ça, les gens ne le savent pas. Les médecins me disent, nous, on arrête de toucher aux fesses, on arrête de faire des injections parce que effectivement, il y a trop de problèmes. Et le BBL aussi, le BBL, alors c'est pas des injections dans les fesses. Vous savez, c'est on réinjecte de la graisse dans les fesses, mais c'est l'opération la plus mortelle, la plus dangereuse en chirurgie esthétique. Parce que, en fait, ça peut créer... Il y a un risque, c'est l'embolie graisseuse, c'est d'injecter la graisse dans le sang. Et là, il y a un risque de mourir.
De mort.
Ouais.
Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lully, Cyril Lacarrière sur France Inter.
Pour Pierre Courade, hors de question de se laisser tenter par la chirurgie esthétique. Lui, pour avoir ce corps défaible, il pousse de la fonte à la salle. Un jour, c'est les leg day, c'est lui qui le dit. Ouais. L'autre jour, le push day, les bras du coup.
Le pull day. Pull day aussi.
Ah, le pull day aussi. D'accord, très bien.
Le chest day.
Bon, on va pas tous les faire, Pierre. Heureusement que votre salle de sport est juste en bas de chez vous. Bonjour, Pierre. On va déjà entendu.
Bonjour, Manon. Bonjour à tous.
Tout ce qu'on s'est dit dans l'émission, résumé en une minute.
Le tourisme esthétique aujourd'hui, le seul tourisme que n'a jamais pratiqué l'équipe autour de la table, visiblement. C'est pourtant une activité en pleine croissance, boostée ou botoxée par les influenceurs qui font de la pub sur les réseaux sociaux pour tel ou tel établissement, situé généralement en Tunisie, en Thaïlande ou en Hongrie. En Turquie, c'est même devenu un vrai enjeu économique, des cliniques ou des usines qui bénéficient avant tout des prix des billets d'avion low cost pour accueillir toujours plus de patients clients. Et qui propose désormais des packages avec chauffeur, hôtel et évidemment suivi post-opératoire. Ça, c'est dans le meilleur des cas, mais parfois, eh bien, on se fait un peu avoir. Pour une greffe de cheveux à 3 500 € en Turquie, contre 8 000 en France, eh bien, on ne peut pas toujours tomber sur un chirurgien professionnel. Et les conséquences peuvent même parfois être dramatiques. C'est ce que nous a raconté notre invitée, la journaliste au Parisien aujourd'hui en France, Elsa Marie. Elle nous a raconté l'histoire tragique d'un jeune homme qui s'est suicidé après une opération ratée de greffe de barbe à Istanbul. Il faut donc rester extrêmement vigilant, d'autant que malgré une législation renforcée sur les moyens de lutter contre ce genre de publicité sur les réseaux sociaux, eh bien les autorités ne peuvent pas tout contrôler. Autre red flag, on paie en cash. En cas de problème, eh bien, on n'a aucune assurance. Néanmoins, parmi les prestations les plus recherchées dans ce genre d'établissement, le BBL, Brazilian Butt Lift, pour avoir des fesses à la Kim Kardashian, l'implant de facettes pour avoir un sourire ultra bright, et la greffe de tympan pour tous ceux qui ont déjà écouté Casse du désir, le morceau iconique de Manon Mariani.
Quelle méchanceté.
Mais c'est clair. Merci Pierre. On passe à l'humour maintenant. Avec celui, avec celui qui nous revient des contrées lointaines.
Ah oui.
On a même eu peur qu'il nous ait abandonné. Et de retour. Alors mon vieux, pas trop dépaysé ?
Pas du tout dépaysé, hein. Je retrouve les mêmes amateurs que j'avais laissés. Hein, seule différence, c'est qu'il n'y a plus le grand Manitou. Hein, je suis un peu déçu d'ailleurs de ne pas être accueilli par le grand boss, hein, mais par ses éternels second couteaux. Hein, tu parles d'un retour en fanfare, hein, franchement, c'est le club des chevelus, c'est ça ? Vous avez éliminé la seule brebis galeuse. Prends le compliment quand t'as un personne n'est dupe. Je vous entends d'ailleurs. Oui, je vous entends depuis tout à l'heure dire que Mathieu, en fait, il est parti en Turquie pour ses cheveux. Alors, déjà, peut-être laisser les blagues aux humoristes.
Mais non, on n'a pas.
Oui, vous allez encore problème, vous blesser. Et ça ne va pas être beau à voir. Voilà. Et ensuite, vous savez ce qu'il fait, Mathieu, en Turquie ? C'est les fesses.
Oh.
Voilà. Oui, un Brazilian butt lift, un BBL. Il était complexé. Forcément, hein, je lui ai dit, à force de passer tes journées assis sur les chaises premier prix du service public, eh ben, t'as le cul plat. Voilà. Puis c'est aussi à force de me croiser dans les couloirs, je pense. Qu'il est complexé.
Oh.
Oui, apparemment, je cite, il aurait dit, je veux le même cul que GC. Voilà, à pas confondre avec je veux le cul de GC.
Oh.
Voilà, ça c'est la prière que répète tous les soirs Pierre Courade. Ah bah, une dévotion si insistante que le Saint-Père en est mort. Après, je comprends que Mathieu ait pas voulu dire la vérité. Il y a toujours, c'est vrai, un tabou hein, autour de la chirurgie, mais bon, quand un pote chauve te dit qu'il part 4 jours en Turquie, c'est rarement parce qu'il est fan de baklava. Hein. Toi, un mois après, tu le revois qu'il a une queue de cheval et des implantations comme ça en équerre, on dirait les frontières d'un pays africain. Hein, et il est là. Ça ? Ah non, mais ça, c'est des compléments alimentaires. En fait, oui, bien sûr. Fous-toi de ma gueule. Hein, les gélules de zinc n'ont jamais transformé personne en princesse réponse. Hein. Non, mais c'est parce qu'en fait, moi, je les prends en gummies. Oui, les fameux gummies de Turkish Airlines. Après, je fais mon malin au regard de ma chevelure incroyable, ici tout le monde jalouse. Hein, ma crinière, pardon ?
Non.
Ma crinière, digne de Mylène Farmer. Voilà, ou de Julie Lescaut. Mais au premier follicule dans le bac à douche, je peux vous dire que je saute dans un charter direction le Bosphore. Puis je peux vous dire que je reviens pas avant d'avoir la tignasse à Régine. Et bien évidemment que j'emmènerai avec moi Quentin. Je vais pas le laisser dans cet état quand même.
Ah, mais non, mais là. C'est fou.
Non, Quentin.
C'est faux.
Pas du tout.
Mais tu rabats tous tes cheveux devant.
Quentin, l'automne. Mais...
Tu connais la technique,
ça fait rire tout le monde. Pas du tout, Quentin. L'automne est là. Il y a un coup de vent qui passe et il n'y a plus rien. Hein. Franchement. Hein. D'ailleurs, pardon, mais on est dans la tranche d'âge avec Quentin parce que les plus gros consommateurs de chirurgie esthétique maintenant, c'est les 18-34 ans. Ça me fait plaisir de t'inclure. Forcément, hein, quand on n'est pas sur Insta, on est sur du porno. Hein. Bah, c'est pas avec du Vivelle Dup hein, qui fait ses petits picots. Là.
Oh.
En 2023, presque 85 000 rajeunissements vaginaux ont été effectués, vu qu'on voit plus que des corps qui nous ressemblent pas et ça nous crée des complexes. Hein. Après, je vais pas m'étendre plus longtemps sur une pratique qui m'a jamais aussi peu concernée. En revanche, la même année, 65 000 mecs se sont fait grossir le pénis. Ce qui me fait poser la question, ça va Cyril, ça a bien cicatrisé?
Très bien.
Oui, mais franchement, t'avais pas besoin, elle est très bien. Hein.
Oh.
Bah non, mais on la sent déjà bien quand il nous la met sur les salaires.
On est bien.
Toi Manon, en revanche, ne fais rien. T'as besoin de rien faire parce que t'as pas besoin de chirurgie, t'es trop belle. Et ça, c'était pour te prouver que je peux faire des compliments premier degré. Voilà.
Il y a pas de vanne.
Non,
il y a pas de vanne. En revanche, dès qu'on trouve un pays qui greffe du talent, on t'appelle.
Allez, voilà.
Finalement, quand on assume qu'on assume ou non d'être passé sous le bistouri, en fait, tout ça parle d'une seule chose, nos complexes. Et pour les gommer, je crois que le plus efficace serait d'essayer de les assumer. Mais pour ça, il faut apprendre à s'aimer. Et malheureusement, c'est un chemin un peu plus tortueux que Paris-Istanbul.
Bien dit, et merci Jessé, on vous retrouve un de ces jours dans Zoom Zoom Zen quand vous aurez envie de venir. Et bien sûr, vous êtes sur scène et en tournée en ce moment, notamment au Mans et à Arras. Retour à Paris au mois de septembre, tout est dispo sur icigc.com. Voilà,
oui.
Pareil que tout est complet. Merci beaucoup Elsa Marie d'être venue nous voir pour tout comprendre à ce phénomène du tourisme esthétique, phénomène qui mérite notre vigilance, on a cessé de le dire. Je rappelle qu'on peut vous lire dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France.
Zoom Zoom Zen.